Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission pour les programmeurs qui veulent vivre une carrière épanouissante. Prêt à passer au niveau supérieur ? C'est parti. Aujourd'hui, je suis avec Pierre Hamelot. Pierre, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore en quelques mots ?
Eh bien, bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle Pierre Hamelot et je suis entrepreneur depuis une quinzaine d'années. Et mon métier au quotidien, c'est d'aider des dirigeantes et des dirigeants à structurer leur business, trouver des réponses à leurs questions, avec, pour faire simple, une double casquette de directeur marketing et technique à temps partagé.
Le sujet de l'épisode qu'on a évoqué, c'est comment devenir tech lead. Comment est-ce qu'on passe de développeur à tech lead? Quel chemin de carrière on choisit? Parce que d'abord, est-ce que c'est une fatalité de devenir tech lead? C'est quoi les options qui s'offrent à nous? Comment est-ce que tu vois les choses, toi? T'imagines, si tu repars, tu vois, si on retrace un développeur, en général, les premières années, son enjeu, ça va être de faire ses armes, ça va être un petit peu de manger du code. A priori, s'il s'est lancé là-dedans, c'est pour manger un peu du code. Ça va durer quelques années, et puis après, il va commencer à relever le nez du guidon, sortir la tête de l'écran, regarder ce qui se passe autour de lui, et là, il va se dire, bon, c'est quoi l'étape suivante? Et là, c'est quoi l'étape suivante?
Ouais, pour moi, hein, j'ai quatre grandes étapes, junior, medium, senior et lead. Pour moi, le junior, c'est globalement, en général, c'est 24 mois, c'est les deux premières années. Le junior, il n'est pas autonome, surtout sur un point. C'est à quel moment je dois demander de l'aide aux gens qui m'entourent. Est-ce que quand on me donne quelque chose à faire, est-ce que je dois dire tout de suite, j'ai pas les bonnes données, je peux pas commencer? Est-ce que je dois bloquer pendant un quart d'heure, bloquer pendant deux heures ou bloquer pendant une journée? S'il y a des juniors qui nous écoutent, ne bloquez pas plus d'une demi-journée ou d'une journée, sollicitez un senior autour de vous. C'est vraiment ça le sujet. Pour moi, le médium, c'est le profil soit qui a de l'expérience sur une techno, mais qui change de boîte et qui doit se réapproprier un environnement technique, des collègues, une documentation, un legacy. Et le senior, c'est celui qui non seulement a de l'expérience, mais qui en plus est en capacité de maîtriser parfaitement la stack, l'entreprise, l'enjeu client. Et après, il y a le lead. Et le lead, c'est vraiment l'étape suivante. C'est le senior qui accepte de partager avec les autres. C'est le senior qui va faire de la veille et qui va emmener les autres vers le haut. C'est le senior qui va être la personne qu'on va suivre dans l'équipe. Parce que tu peux avoir un senior qui va travailler dans l'équipe, collaborer avec ses collègues, mais qui, en gros, globalement, va se concentrer 95% de son temps sur la conception, sur son dev, et avancer, et faire avancer l'équipe. Et tu as le lead qui, lui, va potentiellement passer une partie de son temps conséquente, 30, 40, 50%, des fois plus, à accompagner les autres et les faire grandir. Donc, faire beaucoup moins de dev et beaucoup moins de conception. Plus sur la partie comment j'accompagne et je fais grandir l'équipe, comment je m'assure que la documentation elle est propre. Tiens, on a dit qu'on faisait du TDD, donc du développement drivé par les tests. Qu'est-ce qu'on met en place? Quel outillage? Comment on passe d'un cycle en V à potentiellement une gestion de projet un peu plus agile? Et comment je fais évoluer tout ça? Et pour moi, le lead, il est vraiment, c'est la différence entre le chef et le leader. Le leader, il tire avec les autres et il montre le chemin.
Concrètement, ça veut dire quoi dans le quotidien? Comment j'accède à ce genre de poste en tant que dev? Donc déjà, ça sous-entend de passer par les étapes de seniorité?
Pour moi, c'est déjà avoir un minimum de seniorité, d'être en capacité de comprendre comment l'entreprise fonctionne, la stack de techno, l'ensemble des éléments. Et pour moi, après, c'est une posture. C'est j'accepte de passer 30% de mon temps à aider un junior ou un stagiaire ou un alternant à être onboardé dans l'équipe et je vais répondre à ses questions et je ne vais pas souffler à chaque fois qu'il va m'arrêter. Je vais accepter d'être un peu moins productif. Je vais accepter de peut-être faire un peu moins de code et d'analyse et plus de temps avec d'autres humains. Alors moi, j'ai croisé tout type de devs et j'en ai croisé beaucoup les 15 dernières années. J'ai travaillé avec plusieurs milliers de devs différents dans plein d'équipes et d'entreprises différentes. J'ai certains développeurs qui, en fait, aiment bien être dans leur coin et n'ont pas spécialement envie d'échanger avec d'autres. Et j'en ai d'autres qui sont un peu plus sociables, si je peux me permettre ce mot-là, et qui vont accepter de passer énormément de temps. Donc, pour moi, c'est aussi une posture. Alors, on peut être médium et lead. C'est-à-dire que je peux arriver dans une boîte en ayant un peu d'expérience sur une techno et par contre ne pas maîtriser tout l'enjeu de la stack techno dans laquelle j'arrive. Ça, c'est normal. Le temps de prendre en main les outils, la doc, le legacy. Et en même temps, par exemple, accompagner un alternant ou un junior à grandir aussi dans cette équipe. C'est possible. Donc, on peut être lead avec un profil médium ou senior. Et c'est une posture pour moi.
Et c'est quoi les compétences que tu as besoin de développer pour être crédible là-dedans?
Pour moi, elles sont majoritairement, c'est de la curiosité et après, c'est des compétences interpersonnelles, c'est des compétences humaines. C'est l'envie d'aider son prochain, accepter un peu de pédagogie, de répondre aux défis. Parce que quand quelqu'un vient me voir en me disant « Pierre, j'arrive pas à faire ça », bah, il va falloir que je me creuse la tête pour comment moi je le ferai, avoir de l'empathie. Voilà. Et la notion de lead, après, elle est soit sur un tech lead, donc un développeur qui a aussi le rôle de lead, et elle peut être aussi sur un rôle de direction technique dans les petites équipes, dans les équipes de jusqu'à 10 personnes. Il y a encore la possibilité que la direction technique, qui est une personne qui n'a pas forcément les mains dans le code au quotidien, je sais qu'il y a beaucoup de types de directions techniques différentes, hein, mais il faut savoir que la majorité des directions techniques et la majorité des DSI sur le marché ne mettent pas les mains dans le cambouis, en fait. Ne mettent pas les mains dans le code au quotidien, tout simplement parce que ils gèrent de l'humain, ils gèrent des enjeux politiques en interne, des enjeux de roadmap produit, etc. De choix de techno, par exemple. Donc, un CTO peut être aussi lead.
Tu m'avais dit, ce qui m'intéresse aussi, tu m'avais dit que pour toi, il n'y avait pas de barrière. Parce que quand on discutait pour préparer cet épisode, je disais pour moi, des rôles de CTO ou des rôles de leader, c'était essentiellement des rôles traditionnellement plutôt réservés à des employés. J'ai l'impression qu'on fait appel peu à des freelances pour ça. Et tu allais plutôt à l'encontre de ça en disant, non, en fait, il y a de tout qui existe. Et du coup, je trouve ça vachement intéressant. Comment est-ce que tu exprimes ça? Comment ça s'exprime? C'est quoi les différences entre le fait d'être salarié ou pas salarié ou être freelance, que tu sois tech lead ou directeur technique? Est-ce que tu fais des différences d'ailleurs entre les statuts?
Pour moi, il y a un statut administratif d'un côté qui n'est qu'un statut administratif et après, il y a un sujet d'implication à long terme. Forcément, si je monte une équipe technique et que je vais recruter 10, 15 personnes, voire plus, et que j'ai besoin de quelqu'un à temps plein pour les accompagner, les manager, les faire grandir, structurer la techno, je vais plutôt avoir tendance à recruter quelqu'un à long terme. Et cette personne à long terme, ça peut être un deal associé salarié, ça peut être un deal indépendant. Même si majoritairement, je suis d'accord avec toi que la personne, elle risque d'avoir un contrat de travail en étant associée ou non, et de travailler plutôt sur un projet à 4/5 ou à 5/5, donc 80% ou 100% du temps. En freelance, qu'est-ce qu'on va demander? On va demander du renfort, on va demander un remplacement d'un CTO qui est dans le coma ou qui a la jambe cassée parce qu'il s'est cassé la jambe pendant ses vacances ou en ratant une marche et qu'il n'est pas opérationnel maintenant et qu'on a besoin de tenir une équipe. Moi, j'ai déjà eu le cas dans une boîte avec 70 tech et du jour au lendemain, on n'a plus de CTO parce qu'il est dans le coma. Ouf. Bah là, il y a un moment.
Ouais, CTO de transition, quoi,
Exactement. Et après, ça peut être une expertise. Ça peut être, on fait du on-premise et on veut passer sur du cloud. Et on a besoin de quelqu'un qui nous accompagne à faire évoluer notre stack. On travaille sur du cycle en V et on veut faire plutôt de l'agilité, mettre en place du Scrum. Alors là, tu vas me dire, on peut faire appel à un Scrum Master. Oui, mais bien souvent, on fait appel à un binôme.
Ouais, non, mais là, c'est plus un job de conseil. Ça, c'est plus
Alors,
un
y a
job
du conseil et de l'accompagnement. Parce que ça peut être aussi.
Ouais,
moi, je le vois sur le rôle de CTO à temps partagé. Bien souvent, on me dit, mais Pierre, les autres CTO vont te voir comme un concurrent. Et moi, je leur dis, mais non, en fait, je suis juste un binôme. Parce que bien souvent, le CTO, il y a des choses qu'il ne peut pas en parler à ses équipes parce que il y a des fois des sujets un peu sensibles sur une réduction d'effectifs, sur un licenciement économique qui va arriver. Comment tu gères un licenciement économique quand tu es CTO? Ça, c'est un vrai sujet. Moi, j'ai déjà accompagné des CTO sur ces sujets-là. Et puis, j'ai autre chose, c'est que mes autres associés ne comprennent pas la tech. Donc, ils ne comprennent pas les implications. Et donc, ils ont besoin d'un pair avec qui discuter en toute confidentialité et en même temps de pouvoir être accompagné sur certains sujets. Ça peut être aussi un CTO qui a vu son équipe grandir et qui ne la maîtrise plus. Moi, j'ai connu des CTO qui sont très bons à 8, 10 tech. Par contre, en fait, la boîte a grandi, on a levé des fonds ou on a des nouveaux clients et là, on a 40 tech. Et en fait, je m'en sors plus. Et j'ai besoin d'aide. Et à ce moment-là, en fait, on ne va peut-être pas accompagner l'équipe, mais le CTO. Et on n'est plus sur du conseil, on est sur du mentorat et de l'accompagnement. Voilà. Et après, sur le côté lead, moi, il m'est déjà arrivé de voir des lead tech freelance qu'on va payer 2, 3, 5 jours par mois et qui vont amener un cadre pour faire de la veille, qui vont amener les bons outils, les bonnes sources, si je parle juste de la veille, par exemple, qui vont amener du TDD, par exemple. Moi, j'ai déjà fait appel à des lead tech pour dire comment je fais pour passer une base de code de 350 000 lignes avec zéro test unitaire à une couverture de code à plus de 80%. Comment je prends ça? Comment je monte ma factory pour faire mon intégration et mon déploiement continu alors que aujourd'hui, j'arrête mon serveur de prod, j'utilise mon FTP et je fais une mise en prod à la main avec mes fichiers que je copie-colle. Bah, comment je passe d'un état A à un état B? Bah, je me fais accompagner par des gens qui ont du recul sur le sujet. En interne, avec un contrat classique de salariat, ou en externe, avec des indépendants.
Eh bien, écoute Pierre, je te remercie pour tout ça. C'était un témoignage hyper intéressant et qui donne, en tout cas moi, qui ouvre plein de perspectives intéressantes. J'adore péter les croyances limitantes qui sont par défaut pas visibles en fait jusqu'à ce que tu les confrontes à la réalité. Donc merci pour tout ça. Je te propose que ce soit le mot de la fin. Si les auditeurs veulent en savoir plus sur ce que tu fais, ils peuvent te suivre où?
Vous pouvez me trouver directement sur Twitter, Pierre underscore A, ou m'envoyer un mail, pierre@amelot.fr, et vous trouverez tout ça sur Internet.
Eh bien, écoute, merci beaucoup Pierre et je te souhaite une bonne journée.
Merci.
À bientôt.
À bientôt.
Quant à toi, cher auditeur, je t'invite à rejoindre la communauté des artisans développeurs sur artisandéveloppeur.fr. Tape ton petit email et tu recevras plein de conseils pour doper ta carrière de développeur et vivre une carrière épanouissante. Je te souhaite une bonne fin de journée. Je te dis à bientôt.